Monseigneur Marcaillet, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous pour cet entretien bimestriel diffusé conjointement sur Radio La Pourdire à Thiers et sur Radio Présence Lourdes. Nathalie Chambon, bonjour.
Bonjour.
Avec vous, nous allons interroger notre évêque sur quelques points d'actualité de l'Église et de notre diocèse. Alors, avant de commencer cette émission, Monseigneur Marcaillet, vous avez publié dimanche un communiqué concernant la situation du père Xavier Zabaleta, donc vicaire à Urugne. Est-ce que vous pouvez nous redire les faits? Quelle a été votre réaction, puisqu'il est suspecté de faits de nature sexuelle sur mineurs?
Écoutez, je ne dirai pas grand-chose de plus que ce qui a été communiqué officiellement, d'abord aux paroissiens, qui sont évidemment sous le choc, parce que c'est un prêtre qui est dans cette paroisse depuis un peu plus de 3 ans, par convention avec sa congrégation religieuse des Pères de Timon David, et qui étant bascophone, assume un ministère qui était apprécié de tous, qui a fait l'unanimité. Bon, jusqu'à présent, je n'avais jamais rien entendu le concernant. Comme vous le savez, c'est simplement le 11 mars 2026 que je suis alerté par le supérieur de la communauté qui l'apprenait lui-même fin février 2026, qu'un signalement avait été fait au procureur de la République à son encontre par l'archevêque de Montpellier. Bon, nous n'en avions aucune connaissance et nous ne savions même pas où en était la procédure pénale. Bon, aujourd'hui, maintenant, vous savez ce qu'il en est. Et après qu'il ait été auditionné, le procureur de la République de Béziers m'a permis donc de communiquer avec lui. Et donc, j'ai pris les mesures de prudence qui sont d'usage dans l'Église. Lui étant présumé innocent, hein, c'est évident, tant que les faits ne sont pas établis, l'enquête continue et le procureur de la République n'a pas arrêté son jugement. Y aura-t-il classement sans suite? Y aura-t-il poursuite? Pour l'instant, à ce stade, il n'est pas possible de le déterminer. Mais pour l'heure, pour des raisons de précaution qui sont exigées maintenant par le Saint-Siège dans ses affaires, eh bien, j'ai dû, en lien avec son supérieur religieux, le démettre de tout ministère public dans notre diocèse.
Et donc la décision est dans les mains de la justice à Béziers.
La décision de justice est entre les mains du procureur de Béziers et le suivi canonique doit être assuré maintenant à la demande du dicastère pour doctrine de la foi par le supérieur de sa communauté, sa congrégation.
Alors, on débute notre émission avec cette encyclique du pape. C'est l'actualité de l'Église en ce moment. Donc, cette encyclique qui vient de sortir, Magnifique Humanité, Magnifica Humanitas, sur la protection de la personne humaine à l'ère de l'intelligence artificielle.
Oui, 135 ans après Rerum Novarum de Léon XIII. Donc, Léon XIV a publié le même jour, ce 25 mai, cette nouvelle encyclique. Il centre son texte sur la protection de la personne humaine à l'ère de l'intelligence artificielle et pose vraiment des questions anthropologiques et sociales cruelles. Alors dans son texte, Léon XIV fait un clin d'œil historique à cette encyclique de 1891 de Léon XIII qui répondait à la révolution industrielle. Est-ce qu'on vit aujourd'hui un choc tout aussi violent pour l'être humain avec l'arrivée de l'intelligence artificielle?
Alors comme vous le savez, Léon XIV ne s'en est pas caché dès le début de son pontificat quand il est apparu pour la première fois sur la loggia de Saint-Pierre, pour la première bénédiction Urbi et Orbi à la ville et au monde. Et il a dit pourquoi il avait pris ce nom de Léon XIV, pour une grande part à cause de Léon XIII, et à cause de Léon XIII qui était en effet celui qui a publié la première encyclique sociale au moment de la première grande révolution industrielle, et qui était donc placé sous le signe du travail et du capital. Et donc la dignité de l'homme dans le travail, mise à mal, en effet, par l'évolution industrielle, mais aussi par les remèdes apportés par le socialisme marxiste à ces maux de la révolution industrielle. Et donc, il a dit lui-même qu'à l'heure de cette nouvelle révolution industrielle, qui, je crois, est la quatrième révolution industrielle dans l'histoire depuis la fin du XIXe siècle, eh bien, il pense utile de s'atteler à cette question de l'intelligence artificielle. Moi, je note deux choses déjà en introduction, si on peut dire. C'est que ce pape se situe résolument dans la continuité de ses prédécesseurs, de tous ses prédécesseurs, jusqu'au pape François, y compris, évidemment. Et ça, c'est assez intéressant. Le pape n'est que la courroie de transmission de la tradition vivante de l'Église, tout en apportant les continuités qui sont liées aux choses nouvelles. La première encyclique de Léon XIII, Rerum Novarum, ce qui veut dire au génitif, des choses nouvelles qui adviennent en effet pour la dignité de la personne humaine à travers cette première révolution industrielle. Et lui aussi, eh bien, il dit aujourd'hui, il y a des choses nouvelles avec l'intelligence artificielle qu'on ne maîtrise pas suffisamment sans doute. Et il en profite dans le premier chapitre de cette encyclique pour faire toute une synthèse de tout cet enseignement de l'Église depuis Rerum Novarum, en passant par Quadragesimo Anno, 40 ans après Rerum Novarum, c'est le pape Pie XI, puis ensuite le pape Jean-Paul II, Paul VI, Jean XXIII, Paul VI, le Concile Vatican II, Gaudium et Spes, Saint Jean-Paul II qui a beaucoup écrit et beaucoup augmenté, je dirais, le corpus de la doctrine sociale de l'Église, avec Centesimus Annus, 100 ans après Rerum Novarum. Et puis le pape François avec Laudato Si et Fratelli Tutti, et voilà qu'il nous propose donc une réflexion qui s'inscrit dans cette doctrine sociale de l'Église, qui a d'ailleurs été résumée dans un compendium qu'il cite abondamment dans son encyclique.
Justement, ce qu'on appelle la doctrine sociale de l'Église, c'est pas un seul texte, c'est un ensemble de textes.
Absolument, et c'est même, ça précède nettement la première encyclique sociale, ça s'enracine dans l'Évangile et dans l'enseignement traditionnel de l'Église sur la place de l'homme dans la société, finalement.
Mmh. Avec des grands principes.
Voilà, qui sont rappelés dans
qui
suffit d'appliquer.
Tout est dit, en tout cas, dans ces
qui
principes.
Est clair, en tout cas, et qui donne des vrais critères de discernement sur ces réalités nouvelles que nous ne maîtrisons pas forcément, surtout ces technologies qui vont finalement plus vite que l'homme. Hein, l'intelligence artificielle, finalement, si on veut le dire de manière un peu simpliste, elle n'est pas supérieure à l'intelligence humaine, puisqu'elle est fabriquée par l'intelligence humaine, elle est conçue par l'intelligence humaine, même si sa performance de calcul, d'efficacité, dépasse les capacités naturelles de l'intelligence humaine. Donc, on voit bien qu'on ne maîtrise plus tout complètement dans le domaine de la communication, dans le domaine de la manipulation des esprits, dans le domaine de l'armement, comme il va s'y étendre largement dans le chapitre 5e de cette encyclique. Et donc il donne au chapitre 2 une synthèse des grands principes qui commandent la doctrine sociale de l'Église. C'est assez intéressant. Quelqu'un qui voudrait avoir une connaissance un peu rapide de la doctrine sociale de l'Église, il lui suffirait de lire les deux premiers chapitres de cette encyclique Magnifica Humanitas, Magnifique Humanité. Les grands principes, c'est d'abord le principe de la dignité de la personne humaine qu'il faut comprendre selon les critères de l'Évangile hein, et de la tradition de l'Église, l'anthropologie chrétienne, où il rappelle en effet toutes les grandes vertus. J'ai entendu aussi le discours magnifique et magistral qu'il a prononcé devant le Parlement espagnol hier, j'ose espérer.
On en reparlera, effectivement.
On en reparlera, mais il redit les choses essentielles sur la dignité de la vie, depuis sa conception jusqu'à mon naturel, après avoir être passé par toute l'histoire même du droit en Espagne, avec l'école de Salamanque, etc. Bon, et donc la dignité de la personne humaine, et puis les grands principes que sont...
la justice,
la destination universelle, le bien commun, la notion de bien commun qui était bien oubliée. C'est pas l'intérêt général, le bien commun, c'est pas la somme des intérêts particuliers, c'est le bien que tous peuvent rechercher en commun auquel tous peuvent participer.
Et puis la subsidiarité aussi.
Le principe de la destination universelle des biens de la terre, le principe de la subsidiarité, le principe de la solidarité, puis évidemment le principe de la justice sociale.
Est-ce que vous pensez, si vous avez un avis à donner sur cette encyclique, que le pape va assez loin dans cette menace que représente l'IA, parce que certains le disent aussi qu'il prend pas assez en compte cette menace, qu'il peut être trop bienveillant vis-à-vis de l'IA.
L'Église n'est jamais dans la dialectique que le monde attend. Face à toute modernité, face à tous les progrès de la science, l'Église reconnaît l'autonomie hein, des réalités temporelles, reconnaît l'autonomie de la science dans la mesure où elle ne prétend pas remplacer Dieu. Hein. Car vous avez remarqué que l'encyclique commence par une phrase magnifique, d'ailleurs c'est le mot employé, la magnifique humanité a été créée par Dieu, se trouve face à un grave défi, ou bien bâtir la tour de Babel, c'est-à-dire une société qui se construit avec tous les moyens de l'ingéniosité humaine, mais sans Dieu, et donc qui court à sa perte, c'est la tour de Babel, ou bien édifier la cité où Dieu et l'homme habitent ensemble. Donc le grand principe de cette encyclique, c'est dire la science peut faire des progrès qui en soi ne sont pas mauvais, c'est l'utilisation que l'on fera. Est-ce qu'ils seront au service de la dignité de la personne humaine et est-ce qu'ils seront orientés vers la construction de la nouvelle Jérusalem, et c'est-à-dire sur un principe absolu qui est Dieu, Seigneur et Maître du temps et de l'histoire.
Et alors justement, le pape alerte sur le fait que face aux fausses informations qui sont générées par les algorithmes, tous ces mots qu'il faut désarmer, hein, selon sa propre expression, comment l'Église pourrait-elle aider les jeunes, les fidèles, à garder cet esprit critique dont on voit bien que la société manque tellement en ce moment? Qu'est-ce que l'Église peut apporter comme valeur ajoutée de discernement?
L'Église, d'abord, nous invite à ne pas considérer que tout progrès est mauvais, où tout progrès est bon parce qu'il est progrès, mais à assumer un critère de discernement. Hein, et c'est pourquoi il rappelle tous ces principes d'une seule Église. Je pense qu'aujourd'hui, le grand danger, c'est que l'intelligence artificielle nous permet d'aller tellement vite dans le calcul, grâce aux algorithmes, nous permet d'être tellement performants et tellement efficaces dans beaucoup d'opérations qui nous demandent beaucoup de temps, eh bien, risque précisément de nous empêcher de réfléchir et de penser. Et risque de faire en sorte que nous soyons, comment dire, esclaves de ceux qui sont à l'origine de cette intelligence artificielle, de ces technologies, qui eux-mêmes ont collecté des données, non sans biais idéologique et non sans intérêt économique, qui commandent et qui font que on est à la merci de ces technologies et on ne les maîtrise plus. Moi, je dirais aujourd'hui qu'il faut surtout que les fidèles se réapproprient les grands principes de la doctrine sociale de l'Église, premièrement. Et deuxièmement, je pense que cette encyclique est vraiment une encyclique qu'il faut lire ensemble parce qu'elle fera date. C'est la seule autorité morale, c'est le seul leader international qui a vraiment pris à cœur d'étudier, d'analyser cette réalité d'intelligence artificielle qui nous dépasse et qui est pourtant omniprésente dans la société d'aujourd'hui et même sur les plateaux de télévision, je pense. Mais c'est le seul qui prend ce nom de distance et de hauteur pour porter un certain discernement sur cette réalité technologique qui, en effet, risque de nous dépasser.
Vous disiez, il faut le lire, il faut se l'approprier. Comment, justement, dans notre diocèse, peut-être envisager des formations?
Mais je pense que la formation permanente va s'en saisir. Et puis, je pense que c'est tout simplement dans les paroisses. Il faut que les curés organisent des lectures ensemble avec les fidèles qui le souhaitent, qui lisent ensemble cette encyclique.
Nous reprenons cette émission avec vous, Monseigneur Hayet, avec l'actualité de l'Église en France et bien sûr la venue du pape à Paris et à Lourdes fin septembre. Alors nous, on va être surtout concernés par sa venue à Lourdes. Comment ça va se passer pour notre diocèse? Vous allez accompagner, j'imagine, beaucoup de diocésains intéressés pour profiter de cette venue du pape à Lourdes.
Oui, mais vous savez qu'on n'a pas encore tout à fait le programme définitif, puisque ce sera le Saint-Siège qui communiquera les grandes étapes précises et la précision de ce programme, même si on sait, grosso modo, avec à peu près une vraie certitude, qu'il viendra à Paris, qu'à Paris, il prononcera un discours à l'UNESCO, que certainement, il ira à la cathédrale Notre-Dame de Paris, rencontrer sans doute, comme l'avait fait Benoît XVI, le clergé, les consacrés, les séminaristes. Il y aura une veillée de prière avec les jeunes. Le lieu est en recherche, mais ce sera sans doute le Parc des Princes, peut-être pour faire mémoire de cette première rencontre du pape Jean-Paul II avec les jeunes de France en 1980. Il y aura une grand-messe. Où est-ce que ce sera? Peut-être aux Invalides, au Champ de Mars. Enfin, je n'en sais rien. Mais toujours est-il, il y aura une grand-messe le samedi après-midi. Et il se rendra à Lourdes, plus près de chez nous du coup, et qui s'y intéresse plus directement, en fin d'après-midi, peut-être dans la soirée de samedi. Dimanche matin, il rencontrera les évêques à l'hémicycle, là où nous avons l'habitude de nous rencontrer pour les assemblées plénières. Et une grand-messe est prévue le dimanche après-midi, donc j'imagine sur la prairie. Et il participera certainement à la procession flambeau le dimanche soir. Avant de partir pour Metz, comme on dit Metz, mais c'est Metz, dans l'est de la France, là pour se recueillir sur la tombe du vénérable Robert Schumann, l'un des pères de l'Europe, qui est en effet un grand catholique, en tout cas en lui-même, et je pense qu'il prononcera un discours, normalement aux chefs d'État européens, hein, qui seront présents sur l'Europe. Et on sait que le pape rappelle souvent les racines chrétiennes de l'Europe et la nécessité de ne pas construire une Europe sans Dieu. Donc je pense que le discours du pape risque d'être un petit peu en décalage par rapport au discours européiste que nous entendons généralement, non seulement par les politiques, mais parfois même par les hommes d'Église.
Pour nous diocésains, c'est important d'y aller. Est-ce que ça peut donner un élan dans les communautés? Je pense à tous ces catéchumènes aussi. C'est important de voir la figure du pape.
Ah, mais je crois
que
c'est très important. Le Christ Jésus a fondé son Église sur Pierre et sur la foi de Pierre. Hein, c'est en réponse à sa profession de foi, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, que Jésus lui répond, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Eh bien, en vérité, je te le dis, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Donc c'est vrai que la figure du pape, le charisme du pape est essentiel à la foi de l'Église, et je pense que pour tous ceux qui sont en particulier recommençants, hein, qui retrouvent le chemin de la foi, qui reçoivent ce don de la foi, en particulier à travers le baptême, à l'âge adulte, et nous tous qui avons besoin d'être confirmés dans la foi, eh bien, c'est très important pour rencontrer le pape. Et c'est une grande grâce que les papes modernes en particulier, même si les papes anciens aussi ont pas mal bougé, mais avec les moyens de communication aujourd'hui, c'est plus facile, et transport, les papes modernes puissent venir à la rencontre des églises pour les confirmer dans la foi. C'est le rôle, la mission que Jésus, en Saint-Luc, a donné à Pierre quand tu seras revenu. Confirme tes frères dans la foi. Et donc, je pense que c'est très important pour nous. L'Église est un sacrement. Ça ne se fait pas seulement de manière virtuelle, même si il y en a beaucoup qui pourront profiter des moyens technologiques pour participer aux différents événements de la visite du pape en France. Mais si on peut physiquement, charnellement, faire corps avec le pape pour être confirmé non seulement dans notre foi, mais aussi dans notre communion à l'Église universelle, je crois que c'est très important d'y être.
Justement, je crois que ça s'organise en doyenné avec la direction des pèlerinages. Donc bientôt, il y aura toutes les informations, mais rapprochez-vous des doyens et des curés de paroisse pour organiser ces déplacements à Lourdes.
Et j'encouragerai aussi la pastorale des jeunes à organiser un déplacement à Paris pour participer à la veillée du pape avec les jeunes.
Alors concernant le sujet de la fin de vie, c'est un sujet aussi bien sûr qui préoccupe l'Église. Alors en France, pour rappeler le contexte, les députés examinent le texte cette semaine en commission. Il y aura un débat la semaine du 22 juin et un vote normalement définitif fixé au 15 juillet. Alors est-ce qu'on peut encore agir? Vous avez évoqué le discours du pape au Parlement espagnol, même si en fait en Espagne l'euthanasie est légalisée, mais ce discours a été applaudi. Qu'est-ce qu'on peut faire encore pour se renseigner et puis essayer de faire bouger les choses?
Alors on sait en effet que la commission paritaire entre le Sénat qui a rejeté ce texte et l'Assemblée nationale n'a pas été un succès, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc ça veut dire maintenant que ça doit quand même revenir au Sénat. C'est donc aujourd'hui, dans ces jours, qu'au Sénat ce sera rediscuté. Et après, le dernier mot, comme on le sait, dans la procédure législative, revient à l'Assemblée nationale, qui a déjà fixé le 15 juillet. Donc on voit bien qu'on est à marche forcée. On est loin de la soi-disant bonne intention que le président Macron avait émise lorsqu'il avait dit « on ne pourra le faire qu'avec un consensus ». Or on voit bien qu'au fur et à mesure que le processus avance, les discussions au Parlement, que ce soit à l'Assemblée nationale, que ce soit encore plus au Sénat, eh bien on voit une grande fracture qui grandit de plus en plus entre les pour et les contre, cette loi de fin de vie, qui d'ailleurs paraît tellement peu nécessaire que sur les soins palliatifs où nous sommes très en retard, tout le monde est d'accord à l'unanimité pour dire qu'il faut renforcer le plan de soins palliatifs. Donc il y a une espèce de contradiction dans les termes. À la fois on est pour les soins palliatifs et en même temps on veut absolument cette loi de fin de vie, mais qui le veut? Il veut les protagonistes de cette loi. Le gouvernement actuel, un certain nombre de députés, et quelques et des sénateurs, même en moindre nombre. Mais la population de plus en plus doute de l'utilité de cette loi. Et les soignants, et ceux qui sont en première ligne, par rapport à tous les malades en fin de vie, et tous ceux qui pourraient être éligibles, d'après les termes de la loi, c'est cynique d'ailleurs, à cette possibilité de l'euthanasie et du suicide assisté, parce que cessons de jouer avec les mots. Finalement, ce qui va être statué, c'est l'ultime injection létale, si ça ne s'appelle pas la mort provoquée. Je ne sais pas comment ça s'appelle, si vous voulez. Si on se cache derrière les mots, c'est qu'on n'a pas bonne conscience. Et donc, on voit bien qu'il y a une grande fracture, qu'il y a un refus généralisé dans le monde des soignants, et on ne voit pas très bien comment cette loi peut passer aussi vite, en plein été, dans la torpeur estivale, comme on en a l'habitude maintenant, et alors que, par ailleurs, on invite le pape à venir, qui ne cesse d'être extrêmement ferme dans tous les discours qu'il prononce sur cette question de la dignité de la personne humaine, qui commence par le droit à la vie, depuis sa conception jusqu'à sa mort naturelle. Comme vous le dites, il l'a répété devant tous les parlementaires espagnols, alors que cette loi est déjà passée, avec beaucoup de fermeté. Il le dit d'ailleurs, je parle avec beaucoup de sérénité, de calme et de fermeté sur la dignité de la personne humaine qui doit commander la convivance sociale.
Bon, ben, et puis il a dit que c'était un objectif de civilisation, donc ce n'est pas qu'une question religieuse.
C'est ça, exactement. Et puis disons aussi que le droit à la vie précède ce que l'État peut statuer et ce qu'une majorité même peut décider. Donc il a beaucoup de courage. Et il a été applaudi parce qu'il le dit avec beaucoup de simplicité, mais de fermeté. Je crois que le monde, même ceux qui ont voté pour des raisons que nous n'avons pas à juger et qui ne sont pas forcément par conviction, parce qu'il y a des entraînements, des disciplines de parti, eh bien, je pense que la conscience de ces hommes quand même et de ces femmes est interpellée par la parole de vérité que le pape a le courage d'annoncer de manière ferme, je pense qu'il le fera aussi en France. J'ai cru comprendre qu'il voulait visiter une maison de soins palliatifs qui est pilote à Paris.
La maison Jeanne Garnier.
Donc, vous voyez, on sent bien que le message est clair. Comment Monsieur Macron va-t-il ainsi accueillir le pape? C'est un grand mystère.
Et on voit bien qu'au fur et à mesure des votes et des débats autour de cette loi, les Français sont peut-être de moins en moins convaincus. En tout cas, on sent des dissensions. Vous aviez fait un appel à la prière. On pense, enfin voilà, il faut bien sûr continuer à prier. La prière peut,
oui,
peut faire des miracles, on le sait. Et donc voilà, on peut être réencouragé à ce temps de prière, à ces veillées pour la vie qu'il y a régulièrement aussi dans notre diocèse pour que les mentalités changent.
Et puis continuer aussi à écrire aux parlementaires. Je pense que c'est très important.
Le 1er mai a eu lieu le Pélé des vocations, grand pèlerinage pour les vocations avec quatre autres diocèses, si je ne me trompe. C'était un pèlerinage provincial. Et puis on a aussi les reliques de Louis et Zélie Martin qui sont passées dans le diocèse. Tout ça pour prier pour les vocations, que ce soit les vocations religieuses ou les vocations au mariage. Ce sont des moments qui portent des fruits pour notre diocèse. Vous en êtes témoin, vous qui avez vécu à la fois ce pèlerinage et accueilli les reliques.
Tous les fruits ne sont pas visibles et nous n'avons pas d'obligation de résultat. Le pèlerinage provincial des familles à Bazas, donc organisé par la province, comme son nom l'indique, donc les cinq diocèses de la province, Bordeaux, Bayonne, Hérédax, Agen et Périgueux, a permis, c'est vrai, à des familles de se retrouver. Nous n'avons pas une foule immense, c'était même peut-être un petit reste qui remplissait à peine la cathédrale de Bazas. Nous étions à peu près 70-80, je pense, du diocèse, ce qui est pas mal. Et c'est un bel événement qui permet de se retrouver tous ensemble, de prier ensemble pour les vocations sacerdotales et religieuses dans nos diocèses. Je dois dire d'ailleurs que nous connaissons un frémissement, de même que nous connaissons une croissance exponentielle des catéchumènes adolescents et adultes, et des recommençants, des confirmants adultes. Eh bien, je crois que la rentrée prochaine va connaître une recrudescence des propédeutes. Il se trouve que beaucoup de maisons de propédeutique en France, qui sont en général interdiocésaines, eh bien, disent aujourd'hui, se transmettent l'information en disant « nous, on est au plein ».
Donc ce sont des premiers fruits.
Ce sont les premiers fruits de beaucoup de cette prière pour les vocations qui traverse l'Église quand même depuis un certain nombre de décennies Et je pense que dans le diocèse, on le connaîtra aussi. Hein. Nous avions cette année, si je compte les deux séminaires, 9 propédeutes. Et l'année prochaine, on verra ce que le Seigneur nous réserve. Peut-être qu'on sera appelé à accueillir des propédeutes d'autres diocèses, parce qu'ils ne trouveront plus de place dans les propédeutiques françaises. Vous voyez, c'est plutôt très encourageant, et il faut continuer donc à prier pour les vocations. Et les reliques de Louis Zélie dans le diocèse, vous savez que c'est dans une sorte de trilogie. On a commencé d'abord par accueillir l'exposition des miracles eucharistiques de Saint Carlo Acutis, avant qu'il soit canonisé d'ailleurs, pour raviver le désir de la sainteté. Ensuite, nous avons accueilli les reliques du cœur du Saint Curé d'Ars, pour prier pour les vocations sacerdotales. L'année dernière, c'était les reliques de Sainte Marguerite Marie à la Coque, de Paris le Monial, pour prier pour la vie consacrée. Et cette année, ce sont les reliques de Saint Louis et Zélie Martin, le premier couple qui était canonisé ensemble, et pour prier pour cette vocation, qui est une vocation chrétienne, la vocation au mariage chrétien, voilà, qui est une vocation spécifique, comme le sacerdoce et comme la vie consacrée. Donc ces reliques ont circulé, et je présiderai le jour du Sacré-Cœur, vendredi prochain, la messe de clôture exposition itinérante des reliques. Oui, à Pau.
Nous allons vivre une grande joie le samedi 27 juin dans notre diocèse, puisqu'il y aura l'ordination sacerdotale de Abel Mouy. Don Séverin de la communauté Saint-Martin sera lui ordonné le 20 juin à Évron, mais reste en mission dans notre diocèse à Biarritz. Grande joie également de fêter les 10 ans d'ordination des deux premiers prêtres issus du séminaire diocésain. Et puis, 3 jeunes vont être admis au sacerdoce le 22 juin. Il y a quand même des fruits de ces prières. Comment est-ce qu'effectivement, toute cette joie autour de la vie donnée de ces jeunes peut également, d'abord peut-être susciter des vocations, en tout cas nous permettre de vivre ce temps de joie et de rendre grâce pour ces jeunes qui s'engagent pour nous.
Voilà, c'est toujours une joie pour les séminaristes qui assument une formation longue, qui peut durer jusqu'à 8 ans, dans les prêtres, de voir des aînés arriver au terme et au but, et être appelés de manière officielle par le Seigneur, à travers son Église, à devenir prêtre pour le service du peuple de Dieu. Donc nous allons avoir la joie, en effet, le 27 juin, d'avoir l'ordination d'Abel, qui est issu du séminaire Redemptoris Mater, mais qui a fait toute sa formation ici à Bayonne, et que, dans notre grande générosité, nous prêtons pour l'instant au diocèse de Bordeaux, dont l'archevêque me l'a demandé pour aider un autre prêtre du chemin de catéchuménal engagé dans une paroisse bordelaise. Donc c'est un prêtre du diocèse de Bayonne, mais qui va partir en mission pour une convention de 3 ans dans le diocèse de Bordeaux. Donc c'est une grande joie pour tout le monde. Don Séverin est un diacre qui a accompli son stage diaconal à Biarritz, et nous avons la joie de savoir qu'il restera à Biarritz avec la communauté Saint-Martin. Le jour où j'admettrai 3 candidats au sacerdoce, un peu atypique, hein, il y en a 2 qui sont du séminaire, des jeunes qui ont tout fait jusqu'à présent au séminaire, donc Marc Ezoua et Rosario Termini, mais il y a aussi un troisième, j'allais dire un outsider, qui a 59 ans, quant à lui, qui est facteur dans le Pays Basque intérieur, en Galicie, et qui lui a eu déjà une expérience au séminaire quand il était beaucoup plus jeune, puis ensuite pour les questions familiales, d'épreuves aussi, a dû renoncer à ce moment-là au séminaire et s'engager dans la vie professionnelle. Il se trouve depuis au moins 14 ans dans notre diocèse, et cette vocation est revenue en force. Il est célibataire, toujours fidèle au Seigneur, et donc je l'admettrai comme candidat au sacerdoce avec les 2 plus jeunes.
Donc pour rappel, l'admission au sacerdoce, c'est la première étape.
C'est ça, l'admission
après,
comme candidat au sacerdoce, c'est la première grande étape où l'Église reconnaît, au bout de 4 ans, hein, reconnaît officiellement ce désir qu'ils ont de devenir prêtres, et s'engage à leur donner tous les moyens d'y parvenir. Voilà, si Dieu le veut. À l'occasion de cette admission comme candidat au sacerdoce, ce sera au cours de la messe où nous célébrerons, dans l'action de grâce, nos prêtres jubilaires. Donc ceux qui ont 25 ans de sacerdoce, ils sont deux, un prêtre du diocèse, l'abbé Jacques de Mesmer, et un prêtre fidé de Noum, l'abbé Alfred Smith, qui se trouvait dans la même paroisse, et qui vient du Bénin, lui, depuis presque un an, et puis des prêtres qui ont 50 ans, 60 ans, 70 ans de sacerdoce. Donc dont ceux qui pourront être là seront tout à la joie, à la fois de voir qu'il y a une relève, comme je le dis toujours, qui ne dépend pas forcément directement de leur ministère, tant s'en faut, et c'est souvent la souffrance des prêtres d'un certain âge, mais qui doivent comprendre que leur fidélité de 50 ans, de 25 ans, de 50 ans, de 60 ans, eh ben, est féconde de ces vocations que le Seigneur nous donne. Et puis il y aura effectivement, on va marquer un peu le coup la veille, le 26 juin, ce sera le jour anniversaire d'ailleurs, le 10e anniversaire de l'ordination de Paul Wann et Sange de Françu, qui sont les deux premiers prêtres issus du séminaire des 5 heures de Jésus de Marie, donc du séminaire diocésain, rouvert en 2009.
Donc rendez-vous le 22 juin à 17h pour ces jubilaires et les admissions sacerdoces, et puis le 27 juin pour l'ordination. Tout ça, ça se passe à la cathédrale.
À la cathédrale.
Alors c'est bientôt l'été, hein, avec les personnes qui se dispersent, d'autres qui restent dans notre diocèse, d'autres qui arrivent. Et la pastorale du tourisme a publié un dépliant pour faire la liste à peu près exhaustive de tous les sanctuaires du diocèse, tous les lieux de prière. Est-ce que vous, il y a un sanctuaire que vous aimez fréquenter ou vous nous conseilleriez pour cet été? Il y en a beaucoup, hein, mais...
Mais il y a tellement de sanctuaires, hein. Moi je suis heureux dans tous les sanctuaires de notre diocèse. J'aime bien Notre-Dame de Sarens, j'aime bien Notre-Dame d'Abbette, j'aime bien le sanctuaire de Notre-Dame de Bétharam, hein, même si le nom aujourd'hui est entaché par tous les scandales que nous connaissons. Mais n'empêche que la Vierge Marie est intervenue ici au XVe siècle et Saint-Michel-Gréco-Rousse demeure un saint très important de notre diocèse qui mérite d'être encore connu et suivi. Voilà, il y a beaucoup de lieux dans le diocèse. J'encourage en tout cas les fidèles à profiter de ces vacances et les touristes qui viennent dans notre beau diocèse pendant les mois d'été, eh bien, arpenter ce diocèse entre mer et montagne dans des paysages qui sont magnifiques, et bien tous ces petits sanctuaires dans lesquels il est bon de se recueillir, de trouver dans le silence la présence du Seigneur.
Vous pouvez retrouver tous ces petits dépliants qui normalement sont à l'entrée de toutes les églises. Il y a une autre réimpression, donc il devrait y avoir tous les dépliants à disposition cet été. Un événement aussi cet été dans notre diocèse, puisque le Tour de France va faire une halte à Pau, et à la demande de la Conférence des évêques et de l'association Holy Games, on souhaite rendre visible la présence de l'église sur le passage des coureurs. Donc les cloches sonneront à la volée lorsque les coureurs passeront, notamment devant l'église de Morlas. Nous aurons animé également à Pau. Et puis vous allez présider une messe le 9 juillet à 8h à Saint-Martin avec une bénédiction des vélos, où on invite effectivement tous les diocésains à venir avec leur vélo. L'idée, c'est vraiment de montrer que l'Église est vivante et rayonne au passage du Tour de France.
Et elle croit aussi, comme le pape l'a rappelé récemment, aux valeurs du sport, hein, non seulement humaine, mais aussi chrétienne. Je ne vous promets pas pour autant de me rendre à Saint-Martin-de-Pau en vélo.
Merci Monseigneur Ayet, merci à vous Nathalie Chambon. Bon été à vous, même si vous prenez des vacances plutôt fin août, je crois, d'habitude. Mais on se retrouve à la rentrée sur nos deux radios. Merci beaucoup.
Merci.
Merci.